16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
André Le Nôtre est celui qui a donné ses lettres de noblesse aux jardins à la française. Parmi ses réalisations les plus célèbres, on compte évidemment Versailles, chef-d'œuvre absolu, mais aussi les jardins du château de Chantilly, de Saint-Germain-en-Laye, de Saint-Cloud, des Tuileries, du château de Sceaux, de Meudon, de Marly-le-Roi, ou encore de Vaux-le-Vicomte, situé à 50 km au sud-est de Paris. C'est là que je vous emmène. Un voyage dans le temps jusqu'en 1661, le soir du 17 août précisément. L'été bat son plein. Nicolas Fouquet, puissant surintendant des finances de Louis XIV, donne une fête en l'honneur du roi. Toute la cour est présente, quelques 600 courtisans et courtisanes, jamais dit-on soirée, ne fut si somptueuse. Aucune dépense n'a été épargnée. Tout n'est que luxe, éclat et beauté. Imaginez un peu l'arrivée par la grande grille du château, la silhouette majestueuse du bâtiment, chef-d'œuvre de l'architecture classique, ses superbes toitures d'ardoise et son gigantesque dôme ovoïde surmonté d'un lanternon. Louis Le Vau, l'architecte, s'est vraiment surpassé. Puis c'est l'entrée dans les lieux. Tout ce beau monde s'extasie devant les décors intérieurs de Charles Lebrun. Les dorures extraordinaires, les plafonds à voussures peints d'incroyables compositions. Et ce n'est pas fini. Dehors, on tire un feu d'artifice, au dire de tous, étourdissant. Le feu le plus beau du monde, à en croire Jean de La Fontaine, présent ce soir-là. Le ciel s'embrase de mille couleurs, les contours d'une baleine émergent d'un canal, de sa bouche jaillissent des jets de lumière scintillant. Mais le clou du spectacle, c'est l'écrin dans lequel se tient ce feu d'artifice. Les jardins eux-mêmes, plus magiques encore. Depuis le grand salon du château, les invités n'en croient pas leurs yeux. La statue d'Hercule qu'ils aperçoivent au bout de la perspective leur semble tout proche. On jurerait qu'elle n'est qu'à 5 minutes de marche. Pourtant, elle est distante de 600 toises, soit plus d'un kilomètre. Les invités ne sont pas au bout de leur surprise. À mesure qu'ils s'avancent, à travers les parterres, d'autres beautés apparaissent. Le cours de l'Ancaille, transformé en un majestueux grand canal, se révèle à leurs yeux qu'à son approche. Presque à la dernière minute. Le plus impressionnant reste à venir. Au niveau de l'un des bassins, le grand miroir, un subterfuge laisse tout le monde bouche bée. Quand on y plonge le regard, une copie parfaite du château se reflète dans ses eaux. Mais qui donc a pu concevoir paysage si ingénieux? Celui dont le nom est sur toutes les lèvres durant la soirée, André Le Nôtre. L'homme n'est pas un inconnu, loin de là. Il est déjà une figure de proue de l'art des jardins dans le royaume, mais vaut, et sans nul doute, sa consécration. La gloire et la fortune l'attendent à présent, après une si éloquente et si publique démonstration de ses talents. Le roi, en effet, n'a rien raté du spectacle des jardins, ni de Vaux tout entier. Non, il semble même qu'il en ait pris ombrage. Oser faire un tel étalage de splendeur devant un roi absolutiste, Fouquet doit être fou. Sous couvert d'une accusation de détournement de fonds et de lèse-majesté, Fouquet est arrêté quelques semaines plus tard. La déchéance du surintendant des finances n'aura pas d'impact sur ceux avec qui il travaille, bien au contraire. Le trio visionnaire, Le Vau, Le Brun et Le Nôtre, l'architecte, le décorateur et le paysagiste, vont être récupérés par le roi, qui veut leur confier un autre grand projet, son grand dessein, Versailles. Le Nôtre a 48 ans cette année-là. Sa carrière est sur le point de prendre un gigantesque envol. Mais pour comprendre la trajectoire du plus célèbre des jardiniers français, il convient de revenir au début de l'histoire d'un garçon prédestiné. Lorsqu'il naît le 12 mars 1613, sa famille est depuis plus de 40 ans au service du jardin des Tuileries. Une véritable dynastie de jardiniers. Jean Le Nôtre, son père, est jardinier du roi aux Tuileries, un titre prestigieux qu'il tient lui-même de son père. Sa mère aussi, Marie-Jacqueline, est fille d'un maître jardinier. Si on connaît assez mal la jeunesse d'André Le Nôtre, on sait qu'à partir de l'âge de 17 ans, en 1630, après quelques années de formation, il commence à travailler aux côtés de son père. Doué, comme un rosier, il grimpe rapidement. À 22 ans, il devient premier jardinier de Monsieur, frère du roi. 2 ans plus tard, il succède à son père à la charge de jardinier des Tuileries, avant d'être nommé dessinateur des plans et parterres de Sa Majesté, le roi Louis XIII. Déjà, sa réputation grandit, se cachait aussi d'ailleurs. Il faut savoir qu'à cette époque, faire partie de la communauté des jardiniers royaux signifie stabilité et prospérité. C'est un métier qui implique de vastes connaissances et qui se fonde sur un enseignement très poussé, notamment dans l'art du dessin, de la sculpture, de l'architecture. Le jeune Lenôtre se forme dans les prestigieux ateliers de la Galerie du Bordelot au Louvre, une galerie qui accueille les artistes du roi, où il suit les cours de l'atelier de Simon Vouet, l'un des plus grands peintres du grand siècle. Dans ce vivier d'artistes, Lenôtre côtoie de brillants condisciples. Lebrun, avec qui il travaillera donc à Vaux, ou encore le peintre François Perrier, le sculpteur Jacques Sarrazin et bien d'autres. Lenôtre se frotte également au cercle scientifique, foisonnant à ce moment du règne de Louis XIII. Il y découvre la géologie, la botanique, l'hydraulique, ainsi qu'une autre discipline qui va jouer un rôle capital dans son œuvre. Cette discipline qui passionne Lenôtre, c'est l'optique. Et en particulier un principe tout nouveau à l'époque, l'anamorphose. Qu'est-ce donc ? C'est une technique préconisée par les théoriciens du jardinage de l'époque pour magnifier les jardins en jouant avec les distances et les perspectives. Pour simplifier, si l'on veut voir de loin un carré, il faut dessiner un rectangle. Mmh. Lenôtre est le premier à oser appliquer ce principe à l'échelle d'un domaine tout entier, à Vaux-le-Vicomte. Ce chantier d'envergure, il l'obtient visiblement aux alentours de 1656. Tous les historiens ne s'accordent pas sur la date. Lenôtre y applique les grands principes de ses réalisations futures et il y signe son premier chef-d'œuvre, le premier d'une longue série, dont Versailles sera évidemment l'apogée. Versailles, c'est le projet d'une vie. Lenôtre y travaille près de 25 ans, un quart de siècle à dessiner les plans et à en superviser l'exécution. Le projet d'une vie, mais pas le seul. Heureusement pour lui, le jardinier du roi est assisté d'une armée de collaborateurs, car il mène de front de nombreuses autres réalisations. L'entretien des Tuileries toujours, mais aussi sa charge de contrôleur général des bâtiments, jardins, arts et manufactures de France, obtenue en 1657. Et puis, partout, l'aristocratie fait appel à lui. En France d'abord, à Chantilly, Saint-Germain-en-Laye, au château de la Chaise, à Saint-Cloud, à Sceaux, mais également à l'étranger, car la réputation de Lenôtre a désormais traversé les frontières. Le roi Charles II d'Angleterre lui confie notamment le remaniement des jardins de Greenwich. Il intervient également en Italie, où même le pape Innocent XI demande à le rencontrer en 1678. Une rencontre au cours de laquelle Lenôtre aurait embrassé le pape sur les deux joues. En aurait-il été capable ? On est en droit d'en douter. Quoi qu'il en soit, l'anecdote vient nourrir le mythe de celui que l'on appelait à Versailles « Bonhomme Lenôtre » pour sa modestie et son heureux caractère. L'était-il réellement ? Peut-être était-il surtout un habile courtisan. En tout cas, chose rare pour un personnage de sa stature à la cour, Lenôtre conservera toute sa vie durant la faveur du roi, et même son amitié, on peut le dire. En 1675, Louis XIV l'anoblit en personne, lui octroyant également les prestigieux ordres de Saint-Michel et de Saint-Lazare. En guise de reconnaissance, Lenôtre, fin collectionneur, lui offrira avant sa mort de nombreuses œuvres d'art. André Lenôtre meurt en 1700 à l'âge de 87 ans, laissant une fortune considérable à ses héritiers. Des héritiers qui sont ses neveux et nièces qu'il adopta, alors que ses trois enfants, qu'il eut avec son épouse Françoise Langlois, sont tous morts étant jeunes. La lignée des jardiniers Lenôtre s'arrête alors à sa mort. Mais leur nom, grâce à lui, restera à jamais immortel.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'André Lenôtre, nous sommes avec Alain Baraton, le jardinier en chef du Grand Parc de Versailles. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour Alain Baraton, comme André Lenôtre, les jardins de Versailles n'ont aucun secret pour vous. D'ailleurs, vous fêterez l'année prochaine vos 40 ans à la tête des jardins de Versailles. Oui. Comment cette histoire a-t-elle commencé ?
En 1976, quand je découvre un job d'été caissier, je découvre à cette occasion un château, un parc, une histoire extraordinaire. Je pensais rester quelques petits mois, je suis toujours à Versailles. C'est la découverte de ce lieu qui m'a donné vraiment envie d'être jardinier.
C'est incroyable. Alors André Lenôtre a réalisé ses jardins dits à la française il y a plus de 400 ans maintenant. Qu'est-ce qui les caractérise quand on n'y connaît rien comme en jardinage, j'ai envie de dire ? Qu'est-ce qui caractérise un jardin à la française et comment vous faites pour en garder l'esprit encore aujourd'hui ?
Alors la caractéristique du jardin de Lenôtre, c'est ce mélange subtil du minéral et du végétal. À proximité de la demeure, il y a une sorte d'équilibre véritablement orchestré. Et plus on s'éloigne de la demeure, et plus le minéral semble disparaître au profit de la végétation. Et puis bien sûr, cette manière qu'il a de mettre en scène la statuaire, la fontainerie, les buis taillés en broderie, c'est vraiment la marque d'André Le Nôtre. Et aujourd'hui, pour garder l'esprit des Jardins La Française, il faut tout simplement garder l'esprit du concepteur, les perspectives, le regard qui porte loin, cette envie de découvrir dans les bosquets les surprises, car le jardin d'André Le Nôtre, ce n'est pas qu'un agencement de plantes, ce n'est pas que des sculptures végétales, c'est aussi un aménagement de surprises. On va de surprise en découverte quand on est dans un jardin signé André Le Nôtre.
Oui, au fond, la touche Le Nôtre, c'est ça. C'est des jardins à la française où le roi voulait à la fois dompter la nature. Donc, c'est de l'ordonnancement, en quelque sorte. Et il faut qu'on aille de surprise en surprise. Que le « wow » est fait, comme disent les Américains.
Comme on disait à l'époque.
Oui, le « wow », comme vous dites, est fait à peine arrivé à Versailles. Imaginez le provincial qui découvre ce château. Il a traversé un pays qui est fait de landes, de forêts, de marécages. Et il arrive dans un espace où la nature est totalement domestiquée. Les arbres sont taillés dans un garde-à-vous impeccable. Pas une mauvaise herbe n'apparaît. Donc c'est la domestication de la nature, une nature qui semble obéir au jardinier, donc au roi. C'est vraiment le jardin absolu, c'est le jardin de pouvoir.
Est-ce que les jardins ont évolué avec je sais pas, de nouveaux arbres, de nouvelles plantes qui n'existaient pas à l'époque, ou qu'on n'avait pas importé en tout cas? Quelle a été votre touche personnelle?
Alors déjà, sous Louis XIV, ils évoluent. On va y planter par exemple des marronniers, arbres extrêmement rares à l'époque qui valent une fortune, pour montrer la richesse et la puissance du roi. On va y introduire également des tulipiers de Virginie. Toujours très chic de faire appel à des plantes qui viennent de loin. Et puis de temps en temps, les maladies déciment les âmes, comme les ormes. Il a bien fallu remplacer ce qui était la structure même du jardin à la française. Les tilleuls vont faire leur apparition. Et aujourd'hui à Versailles, les aliments sont majoritairement composés de tilleuls, mais on y trouve aussi des peupliers, des hêtres, des marronniers que nous replantons, quantité de végétaux pour diversifier justement et éviter que si demain une maladie venait à s'abattre sur le domaine, tous les arbres ne soient contaminés.
Oui. Alain, vous êtes un amoureux des jardins et vous le prouvez dans votre dictionnaire amoureux illustré des jardins paru chez Plon et Grune Édition. Et vous écrivez que découvrir un jardin, c'est s'imprégner d'une culture. C'est ce que vous vous attelez à faire à Versailles. En somme, c'est plus qu'un jardin, c'est faire rayonner la culture française.
Bien évidemment, d'où l'appellation jardin à la française. Il y a des jardins anglais, des jardins japonais, des jardins hollandais. Le jardin à la française, c'est une culture qui nous est propre. C'est un lieu où le mélange de la statuaire, de la fontainerie, où tous les arts sont représentés et concentrés dans un espace réduit, ouvert sur le monde extérieur. C'est l'esprit même du jardin à la française.
Mais au fond, ce qui est assez amusant, c'est que quand vous allez d'un château à l'autre en France, on trouve toujours des dessins de Le Nôtre. On a l'impression qu'il était le seul jardinier qui travaillait. Il faut dire que le roi l'avait employé. Mais c'est vrai qu'on ressort des dessins de Le Nôtre pour refaire des jardins partout en France. Au fond, il faisait quoi? Il domestiquait, c'est-à-dire qu'il y avait des marécages, des prairies. Et lui, il s'acharnait. Comment il s'y prenait pour assécher ces marécages, pour domestiquer même l'eau, puisque à Versailles, pour le Grand Canal, on détourne des rivières, comme à Maintenon, par exemple.
Mais vous parlez du Grand Canal, un parfait exemple, à savoir, Louis XIV va utiliser l'eau à Versailles, présent un petit peu partout. Yvelines voulait dire en Celte riche en eau. Il va canaliser cette eau et en faire une pièce d'eau qui permettra au roi d'offrir des spectacles nautiques incroyables, mais également aujourd'hui des réserves en eau indispensables pour le fonctionnement des fontaines. Donc Le Nôtre va s'entourer de quantité de spécialistes, son aura va faire en sorte qu'effectivement, il est bien difficile de se faire un nom du temps d'André Le Nôtre, à l'exception peut-être de Jean-Baptiste de la Quintinie, mais entre les deux hommes.
Mais enfin, c'est le potager, et surtout
puis,
lui.
Et puis, il y avait une certaine rivalité. Mais il est vrai qu'André Le Nôtre a mis la main sur cette corporation qu'il va totalement diriger. Claude Degault, qui est en charge de Chantilly, est le petit-neveu d'André Le Nôtre. Le Bouteux, qui fait des merveilles à Trianon, a épousé une nièce d'André Le Nôtre. Donc, pour faire très simple, si l'on veut briller à l'époque de Le Nôtre, il vaut mieux être proche de sa famille.
Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec, j'ai l'impression qu'on parle d'Alain Ducasse dans la gastronomie, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige plein de restaurants étoilés. Il était un peu au-dessus. Lui-même, il ne mettait pas la main à la pâte. J'imagine qu'il ne coupait pas les mauvaises herbes. Il avait des jardiniers en chef en dessous de lui. Non, enfin,
mais
partout.
Cette image est très juste. Effectivement, comme Alain Ducasse, eh bien, il va mettre sa patte, il va mettre sa signature. Quantité de jardins ont été supervisés, signés par André Le Nôtre, alors qu'en fait, il a donné l'impulsion, il a donné l'esprit. Voilà, un peu comme un grand maître qui finalement va achever un tableau, alors qu'il a eu des quantités d'apprentis qui travaillent pour lui.
Je l'ai dit, Le Nôtre avait la faveur du roi et même son amitié. Et c'est rare, d'ailleurs, ils sont très peu. On a souvent parlé ici de Lully, qui avait l'amitié du roi. Et il y a le nôtre. C'était une relation très proche, même si parfois le nôtre pouvait agacer le roi parce qu'il le trouvait trop lent. Non,
à juste titre. Quand le nôtre...
Oui, mais ça, il faut que ça pousse.
Oui, oui, mais quand le nôtre, en présence du roi, qualifie Mansart de maçon, il a quand même de quoi, de temps en temps, créer quelques conflits. Le nôtre, par exemple, quand il va être anobli, va choisir pour emblème, pour son blason, le limaçon, pour rappeler qu'effectivement, il est peut-être lent, mais c'est surtout la nature qui est lente. Par contre, ce qui est sûr, et ce qui fait ma fierté, c'est que André Le Nôtre était à la cour la seule personne devant laquelle Louis XIV se découvrait. Et moi, l'idée que le roi, le plus grand roi de tous les temps, ne se découvrait que devant son jardinier, ce n'est pas pour me déplaire.
C'est ce que fait la présidente de Versailles quand elle vous salue dans les jardins. Elle se découvre aussi.
Elle ne se découvre pas, nous nous inclinons respectueusement, mais je crois que Catherine Pégard, effectivement, a conscience de la beauté et de l'importance des jardins.
Et Stéphane le racontait dans le récit, André Le Nôtre était issu d'une famille de jardiniers, jardiniers de père en fils. C'était aussi une vocation profonde chez lui à la base, ou il s'est retrouvé dans le jardin par obligation quelque part ?
Eh bien, je crois qu'il a choisi ce métier pour vivre. Son rêve à lui, c'était d'être peintre. Il suivait les cours de Simon Vouet au Louvre, il aurait adoré être peintre. D'ailleurs, on retrouve dans les dessins d'André Le Nôtre cette passion de la perspective, cette passion du détail. Mais Le Nôtre a eu une carrière contrariée, mais une belle carrière toutefois, en devenant le plus grand jardinier de tous les temps, mais il voulait être peintre, on a trop tendance à l'oublier.
Alors, Alain Baraton, il y a Versailles, évidemment, vous avez une... Si on oublie Versailles, c'est difficile, mais Chantilly, Sceaux, Vaux-le-Vicomte, Jean de Bataille, quel est votre jardin de Le Nôtre, imaginé par Le Nôtre, qui vous plaît le plus ?
Eh bien, avant de vous répondre, je vais déjà vous dire celui que Le Nôtre lui-même préférait. Il écrit au duc de Bentinck, qui est son homologue anglais, dans les années 1686, et il l'encourage à venir découvrir les jardins de France, et il dit « Venez découvrir Versailles, Vaux-le-Vicomte, Saint-Cloud et surtout Chantilly. » Je crois donc que le jardin préféré d'André Le Nôtre, c'est à Chantilly. Moi, je ne vous cacherai pas que j'ai une tendresse particulière, vous en avez superbement parlé tout à l'heure, pour Vaux-le-Vicomte. Quand on arrive à Vaux-le-Vicomte, quand on découvre ce château, quand on voit ce jardin, on ne peut être qu'admiratif du talent d'André Le Nôtre. C'est là où vraiment il a excellé, c'est là où toutes les proportions sont extraordinaires, et tous les jardins à la française vont finalement s'inspirer bien sûr d'André Le Nôtre, mais surtout de Vaux-le-Vicomte.
Oui, sauf qu'à Vaux-le-Vicomte, aujourd'hui, comme il y a cette maladie des buis, tous les buis, la broderie de buis sur la première terrasse, en quelque sorte, a été...
C'est quand même joli, Stéphane.
Imaginez. Non, il y a un problème. En France, on a un problème avec les broderies de buis à cause de la maladie.
Peut-être l'occasion de saluer la famille de Voguet qui a merveilleusement su remplacer les buis par une œuvre contemporaine. Une manière de ne pas détourner, j'allais dire, l'esprit d'André Le Nôtre et d'attendre simplement que la maladie ne soit plus qu'un lointain souvenir pour remettre des buis. Cette représentation, finalement, est assez subtile.
Mais vous nous direz ce qu'on peut faire contre la maladie des buis.
Bah vous l'avez aussi dans votre demeure, Stéphane.
Oui.
C'est un petit Vaux-le-Vicomte, déjà. Oui, c'est joli. Hein. Le nôtre disait que c'était son jardin préféré.
250,
c'est pas le nôtre,
250 hectares en plein Paris.
C'est rarissime, effectivement.
Merci en tout cas, Alain Baraton, de nous avoir emmenés en promenade dans les allées de Vaux-le-Vicomte et de Versailles. Je précise que vous nous emmenez aussi en balade grâce à votre magnifique dictionnaire amoureux illustré des jardins, qui est paru chez Plon et Grund.
Ici,